Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, il est 7h. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal sur RMC, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Affrontements, tirs de mortier et gaz lacrymogène, de violents heurts ont émaillé un rassemblement de tuning samedi à soir à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Des policiers ont été pris pour cible. Les questions nombreuses après la fusillade sur fond de trafic de drogue qui a fait un blessé ce week-end à Grenoble. Un jeune mineur isolé de 12 ans, il est toujours dans le coma. Et les Bleus qui s'avancent serein vers 2026, ils terminent l'année sur une bonne note. Victoire 3-1 en Azerbaïdjan.
Un rassemblement de tuning qui dégénère à Bourg-en-Bresse.
Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 3000 personnes s'étaient réunies sur le parking d'un centre commercial de la ville. Événement illégal, interdit par les autorités, et tout a dégénéré, Romain Houg, au moment de l'arrivée des forces de l'ordre visées par des tirs de mortier.
Sur cette vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, plusieurs individus masqués ou capuches sur la tête avancent en direction d'une voiture de police sur laquelle ils tirent à coups de mortier. Un déluge de feux d'artifice qui s'abat sur le véhicule des forces de l'ordre, les forçant à faire demi-tour. Quelques heures plus tôt, les policiers et gendarmes avaient été déployés pour verbaliser les participants à cet événement interdit par la préfecture. Près de 3000 personnes et 800 véhicules réunis sur le parking d'un centre commercial. Les forces de l'ordre relèvent des vitesses excessives, des conduites dangereuses avant que l'événement ne dégénère. Selon le communiqué de la préfecture, l'un des individus serait même venu au contact avec un jerrycan d'essence. Alain Barberis est secrétaire départemental du Rhône chez Alliance Police Nationale.
On n'est pas dans Fast and Furious, au-delà même de faire des dérapages sur des parkings qui déjà est dangereux et interdit bien évidemment hors circuit prévu à cet effet. Là, on est clairement dans de l'ultra-violence gratuite.
Aucun blessé n'est à déplorer parmi les forces de l'ordre, mais 3 véhicules de police ont été dégradés.
Le choc à Grenoble, où un jeune adolescent, 12 ans seulement, était toujours entre la vie et la mort hier après-midi dans le coma, blessé de 3 balles, victime d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants sur un point de deal. Les tireurs sont toujours activement recherchés ce matin, et ce qui interpelle dans cette affaire, c'est l'âge. L'âge de ce jeune garçon, un jeune mineur isolé, et ils sont de plus en plus nombreux à être sollicités par les trafiquants de drogue. Un fléau, Martin Bourdin, qui a gagné l'Europe ces dernières années.
Ces mineurs non accompagnés venus seuls d'un pays étranger, Bruno Bartosetti et ses collègues policiers en voient de plus en plus lorsqu'ils interviennent sur des points de deal.
On a beaucoup de mineurs isolés qui sont interpellés.
Il est secrétaire national du syndicat de police Unité.
Ce sont des petites mains. Ils permettent justement de vendre pour toucher le consommateur. Il y a cette proximité. Ce sont vraiment des proies. Ce sont des chairs à canon. S'ils se font interpeller par la police, s'ils se font tirer dessus, c'est pas un problème pour ces trafiquants de stupéfiants.
Des jeunes recrutés généralement via les réseaux sociaux, happés par l'argent promis par le trafic de drogue et dont la vulnérabilité sert beaucoup les trafiquants, explique le sociologue Olivier Perroux. Il a réalisé plusieurs études sur ces mineurs isolés.
D'une part, ils ne savent pas comment ça fonctionne parce que parfois, parlant mal français, etc., pour les enquêtes, du coup, ils ne peuvent pas donner d'informations qui coûtent beaucoup moins cher que des petites mains qui seraient françaises. Et en plus, les menaces ou les violences qu'ils subissent, ils ont du mal à aller vers la police pour pouvoir les dénoncer.
Et comme beaucoup d'entre eux sont déplacés régulièrement de ville en ville par les trafiquants, difficile, voire impossible pour les associations d'aide de les identifier et de les prendre en charge.
Les recherches vont reprendre ce matin en Ardèche après la disparition d'un septuagénaire surpris par la montée des eaux. Seule sa voiture a été retrouvée après les intempéries qui ont frappé le département. Le département qui était hier avec l'Isère et les Alpes-Maritimes en vigilance orange, pluie et inondation. Ce n'est plus le calme ce matin. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Le gouvernement va poursuivre en justice Gribul, repreneur de Novasco en 2024. C'est dans 2 heures maintenant que le tribunal de Strasbourg doit se pencher sur l'avenir de l'aciériste, fleuron français de la sidérurgie en danger. Seules 2 offres de reprise sont sur la table. L'aciériste qui en est à son 4e redressement judiciaire en 11 ans, celui-là pourrait être particulièrement douloureux pour les salariés de l'entreprise. Sur les quatre sites de l'Acierie, un seul devrait être conservé. Plus de 500 salariés se retrouvent sur la sellette. Reportage sur l'un des sites menacés à Agondange en Moselle et ses 450 salariés sans espoir.
Les amis, vous voulez un café ?
Presque tous les jours, pour trouver un peu de réconfort, ses collègues se retrouvent dans un local face à l'usine.
Avec plaisir.
Quatre mois qu'elle est à l'arrêt.
On était fiers de notre savoir-faire, fiers de l'unicité de notre travail. On comprend pas l'abandon de l'État aujourd'hui.
Nicolas en parle déjà au passé. Il secoue sa jambe, les yeux vers le sol, la gorge serrée.
J'ai encore de l'émotion. Pourtant, ça fait quatre mois là qu'on tourne plus. Mais tant que j'aurai cette colère en moi, je pourrais pas m'y résoudre.
En face de lui, Thomas pense à sa reconversion.
Je veux juste faire un métier qui m'a passionné autant que j'ai été passionné par le métier de la mineure.
Ensemble, ils font le deuil de l'aciérie, restent les souvenirs.
Les plus anciens qui m'ont appris le métier, donc Kader.
On a passé des bons moments. On s'était fait une plaque de cuisson en hiver. Et on cuisait des châtaignes, côté des bars qui passaient à plus de 1000 degrés.
Tout en travaillant,
tout en travaillant. Malheureusement, tout ça est terminé.
Une situation qui a déjà des conséquences sur le tissu industriel local. André Bousser est président d'ABServe, sous-traitant de Novasco.
Début décembre, on va engager les procédures de licenciement économique pour 5 personnes.
Le site d'Agondange représente 10% de son chiffre d'affaires.
Reportage d'Amélie Courtet, envoyée spéciale en Moselle pour RMC. C'est dans ce contexte que s'ouvre ce lundi à Paris le salon Tous France, pour la première fois dédié aux entreprises tricolores. Plus de 30 milliards d'investissements sont annoncés dans 151 projets répartis sur l'ensemble du pays. Des entreprises françaises qui n'embauchent pas assez de jeunes sortis de lycée professionnel. Un quart d'entre eux restent plus d'un an au chômage à l'issue de leur diplôme. Chiffre de la Break Poverty Foundation que vous révèle RMC ce matin en exclusivité. Détails à suivre dans le journal de 7h30. Un rendez-vous ce matin pour les avocats de Kylian Mbappé devant les prud'hommes dans le conflit qui oppose le joueur au PSG. L'attaquant tricolore continue de réclamer le versement de 55 millions d'euros de salaires et de primes impayées à son ancien club, ainsi que la requalification de son contrat de CDD en CDI. Kylian Mbappé, qui n'était pas du déplacement des Bleus en Azerbaïdjan hier soir, équipe complètement remaniée pour ce dernier match de l'année, la qualification pour la Coupe du Monde en poche. Les Bleus s'imposent 3-1 et peuvent désormais, Arthur Perrault, se projeter sur 2026 avec plusieurs motifs de satisfaction au tableau.
Oui, de quoi déjà donner des mots de tête à Didier Deschamps. La France brille, surtout dans le secteur offensif. Les attaquants Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitike ont fait forte impression hier soir. Le sélectionneur rassuré.
JP Mateta, il marque un très beau but de la tête. C'est très bien pour nous. Hugo Ekitike, il prend de la confiance aussi. Forcément, c'est des éléments sur le plan offensif qui viennent se rajouter par rapport à tous les joueurs qui peuvent être disponibles.
Au milieu de terrain, les Bleus ont aussi l'embarras du choix. Le monégasque Marnes Akliouche a inscrit son premier but en sélection contre l'Azerbaïdjan. Deschamps va devoir trancher avant l'annonce de sa liste, prévue mi-mai pour la Coupe du Monde. Le meneur de jeu, Warren Zaïre-Emery, déjà prêt pour la compétition en Amérique.
Tous joueurs rêvent de gagner la Coupe du Monde. Il y en a qui l'ont déjà gagné dans ce groupe. Ça sera un plaisir d'être là et d'aider l'équipe au maximum. Et comme je le dis, c'est un rêve de gagner la Coupe du Monde.
Mais la concurrence fait rage en équipe de France. Les derniers choix pourraient intervenir en mars lors d'une tournée aux États-Unis et un match contre le Brésil.
Et la Coupe du Monde nord-américaine, ce sera à vivre l'été prochain sur RMC, radio officielle de ce mondial.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. On part au 32-16. Et il y a Christine qui nous appelle de l'Aisne. Vous êtes à Bonneuil, infirmière. Bonjour Christine.
Bonjour Apolline.
Ça va? Bah dis donc, c'est sympa ce bonjour là.
Lundi matin. Quoi.
Oh là là,
écoutez,
ça.
Écoutez, je disais à votre collègue, j'adore votre équipe. Vous savez, ouais, au standard, j'adore votre équipe. Moi, je vous écoute tous les jours. Je suis sur la route à partir de 6h du matin et franchement, vous faites complètement partie de mon quotidien en fait. Même quand je travaille pas d'ailleurs.
Ah mais ça fait grand grand plaisir. J'adore l'idée aussi de que nous on puisse se projeter en s'imaginant avec vous. Bah, on est un peu assis sur le siège passager, on vous accompagne. Christine, vous vouliez réagir
voilà. Oui, je voulais réagir sur les
bacs pro. Cette info RMC qu'on vous dévoile effectivement ce matin. Un quart des diplômés de bac pro ont au moins un an de chômage derrière. Vous avez un avis là-dessus?
Ouais, j'ai un avis. En fait, j'ai deux exemples. J'ai mon frère qui est électricien à son compte et qui prend des étudiants en bac pro. Et
ouais.
Franchement, mais ils savent pas travailler. Et en fait, il manque cruellement de profs aussi en bac pro. On parle souvent du lycée général, mais là, par exemple, j'ai un gamin qui est en stage chez lui. Il est la deuxième année de bac pro, il n'a pas eu de prof de l'année en atelier.
Ah oui, donc ça commence. Oui, ça commence très mal. Après, il y a cette histoire d'absentéisme, il y a le fait que les chiffres montrent que 30% des diplômés de bac pro ne maîtrisent pas la lecture hein, quand ils arrivent effectivement en bac pro. Donc c'est quand même très très compliqué.
C'est vrai aussi. C'est un problème. C'est ce que mon frère me disait. Il disait que la UDG.
Faut lui dire à votre frère.
Christine, faut dire à votre frère
d'appeler le 3216 lui aussi. Et puis vous savez quoi en plus, faut lui dire d'écouter RMC parce que si vous vous inscrivez pour les 120 000 euros, j'imagine que vous avez entendu, on vous offre 120 000 euros quand même ce mois-ci sur RMC. Eh ben il faudra qu'on puisse appeler quelqu'un, un de vos proches, qui dise qu'il écoute RMC. Donc moi je pense que votre frère c'est pas mal. Franchement, Christine.
C'est pas mal. Donc,
famille RMC. Famille RMC.
Je pense que tout le monde autour de moi sait que j'écoute RMC.
Bon, c'est très sympa. Belle journée, Christine. Merci d'avoir appelé le 3216. Il est
7h11. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
6% d'augmentation cette année. À quelle sauce est-ce qu'on va être mangé l'an prochain? On parle des prix des mutuelles ce matin. Bonjour Éric Chenu.
Bonjour Apolline de Malheur.
Vous êtes le président de la Mutualité Française. Vous regroupez les principales mutuelles de France. Alors que le budget de la Sécurité sociale est examiné par les sénateurs à partir de cette semaine, il faut faire des économies, nous dit-on. Ça pourrait être sur le dos des mutuelles et donc, à la fin des fins, sur nous les adhérents. Ça n'est pas aux mutuelles de compenser. Voilà votre parti pris ce matin et vous nous le dites dans un instant. 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h15 sur RMC à la radio, sur RMC Story, à la télé. Très bon réveil à tous. Qui pour payer le système de santé à la française? Faire des économies, oui, mais pas sur le dos des malades. Bonjour Éric Chenu.
Bonjour.
Voilà votre parti pris ce matin. Vous êtes le président de la Mutualité Française qui regroupe les principales mutuelles de France. Le prix des contrats de mutuelles, ils ont déjà augmenté de 6% en moyenne en 2025 et ça pourrait encore augmenter l'an prochain. Est-ce que vous avez déjà une idée de combien? Puisqu'à un moment ou un autre, va bien falloir que vous répartissiez la charge que l'État, en quelque sorte, vous fait peser.
Non, pour l'instant, on n'a pas encore cette information. Les études que l'on fait habituellement se font courant décembre pour avoir cette communication en toute transparence. Mais ce qu'il faut mesurer, c'est les discussions qui ont lieu actuellement au Parlement, qui vont commencer au Sénat cette semaine, et où, une nouvelle fois, les parlementaires envisagent d'augmenter la taxe sur les complémentaires santé. Mesurons que il y a 15 ans, c'était 720 millions de taxes qui étaient acquittées par les adhérents des complémentaires santé. Cette année, c'était 6,5 milliards et on veut augmenter d'1 milliard de plus. C'est-à-dire qu'on aura multiplié plus que par 10 en 15 ans les taxes sur les complémentaires santé.
Ce qui est en discussion, en effet, et c'est une information RMC qu'on vous révèle ce matin, c'est que les sénateurs ont voté samedi en commission le retour de la taxe sur les mutuelles en l'augmentant en effet d'1,1 milliard. Leur justification, c'est de dire que les mutuelles sont en bonne santé financière et que donc, tant qu'à faire, ils peuvent payer.
Sauf que cette TVA sur la santé, parce que c'est ça cette taxe, c'est chacun qui la paye. C'est-à-dire que janvier, février, quand vous payez votre complémentaire santé chaque mois, vous ne payez que des taxes. On pense que c'est pas le bon moyen. Par ailleurs, c'est injuste parce que les retraités qui acquittent les cotisations les plus élevées sont ceux aussi qui payent le plus de taxes. Donc c'est pas une modalité juste proportionnelle aux revenus, par exemple, qui pourrait être envisagée. Il y a des efforts à faire pour financer notre système de santé.
Lesquels? Vous avez-vous des propositions à faire?
Oui, nous avons des propositions pour faire en sorte de travailler sur l'efficience des prescriptions, éviter des soins redondants. Par exemple, quand vous allez voir un médecin qui vous prescrit des analyses de biologie, vous êtes hospitalisé parce que votre état de santé l'exige, eh bien, on vous refait la totalité de la biologie.
Même si vous en avez déjà fait il y a 3 mois.
Même si vous l'avez fait il y a une semaine. Et ça, on pense que ce genre de choses, c'est plus possible. Que ce soit en biologie, que ce soit en imagerie, en IRM, en scanner, qui sont quelquefois refaits également. Donc, c'est éviter ces soins redondants. Éviter aussi de toujours avoir recours aux médicaments quand on peut utiliser des thérapies non médicamenteuses. C'est tout cela qu'il nous faut travailler avec les professionnels de santé à partir des préconisations de la Haute Autorité de Santé, des sociétés savantes, pour mieux soigner en dépensant moins.
Est-ce qu'il faut faire aussi l'économie d'un certain nombre de médecines qui sont à la marge de la médecine reconnue. On pense par exemple aux ostéopathes. Est-ce qu'il faut tout rembourser? Est-ce qu'il faut rembourser un peu moins certains? Est-ce qu'il y a des moments où il faut refaire le point régulièrement sur l'évolution des pratiques?
Il faut évidemment refaire le point sur la totalité des pratiques. Ce qui se faisait il y a 15 ou 20 ans doit être réinterrogé à l'aune des connaissances scientifiques. C'est pour ça que je parle de la Haute Autorité de Santé, des préconisations de la Haute Autorité de Santé. Nous portons une réforme du contrat solidaire et responsable. C'est le contrat défini par la puissance publique sur les soins essentiels. On pense que le périmètre de ces soins essentiels doit être réinterrogé à l'aune des connaissances d'aujourd'hui. Qu'après, les gens souhaitent des contrats plus couvrants et acceptent d'en payer une utilisation plus importante. C'est leur décision, tout à fait. Mais par exemple, il y a une autre mesure qui nous pose problème, qui est envisagée par le gouvernement et probablement soutenu par le Sénat, ça sera le doublement sur les franchises, sur les boîtes de médicaments, sur le transport, les participations forfaitaires sur les consultations médicales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni l'assurance maladie, ni les complémentaires santé, nous n'aurons le droit de rembourser 4 euros par consultation médicale, 2 euros par boîte de médicaments. En quoi c'est responsabilisant alors que les gens sont malheureusement malades? En quoi on peut justifier pour une personne qui a un cancer, qui est en affection de longue durée, qu'on va lui laisser 4 euros par consultation médicale, 2 euros par boîte de médicaments? Ça peut aller jusqu'à 250 euros de reste à charge par an. Ça nous semble une sanction contre les patients.
Contre les patients et contre les malades. Merci Éric Chenu d'avoir lancé l'alerte ce matin. Effectivement, au début de cette semaine où les sénateurs s'emparent du budget de la sécurité sociale. Éric Chenu, président de la Mutualité française, qui regroupe donc les principales mutuelles de France. Merci à vous. 7h20.
Merci à vous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, il y a un nom qui revient beaucoup en ce moment au Parlement, c'est celui de Pierre Valdec-Rousseau.
Oui, c'est l'homme qui a réussi une performance, gouverner avec la gauche et la droite confondues. C'était à la fin du 19e siècle et vous savez quoi Apolline? Ça s'est très bien passé.
Et vous allez nous le dire dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. J'avoue que j'ai hâte, il va pirater Patrick Sébastien qui est donc mon invité à 8h30. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC, bon réveil à tous. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin, Arthur Chevalier nous fait remonter le temps. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Il reste une semaine de discussion à l'Assemblée nationale sur le budget avant qu'il ne soit donc transmis au Sénat. Et jusqu'ici, le gouvernement de Sébastien Lecornu a le soutien du Parti Socialiste. Un soutien que les socialistes justifient par des arguments historiques.
Oui, et par un personnage en particulier. Ce personnage, c'est Jean Jaurès. Boris Vallot, le chef des députés socialistes, y avait fait référence lors d'un discours pour défendre sa politique de compromis. François Hollande lui-même en a aussi parlé dans son dernier livre.
Mais à quel épisode de la vie de Jean Jaurès ils font référence?
Alors, c'était à la toute fin du 19e siècle, sous la 3e République. À cette époque, l'extrême gauche et l'extrême droite avaient le vent en poupe. Pour les contenir, il fallait que la gauche et la droite acceptent de gouverner ensemble. Et un homme va réussir cet exploit. Cet homme, c'est Pierre Valdec-Rousseau, un centriste. Il est nommé président du Conseil, donc Premier ministre, en 1899, avec une mission, faire un gouvernement avec tout le monde, droite-gauche confondu.
Et les socialistes vont accepter de le soutenir?
Oui, à commencer par leur chef, donc Jean Jaurès. Il soutient ce gouvernement au nom de l'intérêt de la nation. Pour la première fois en France, un ministre socialiste était nommé. Il s'appelait Alexandre Millerand. Il sera d'ailleurs plus tard président de la République. Les socialistes vont gouverner avec des ministres très à droite, hein, notamment un général qui s'appelait Gaston de Galifet, un homme qui avait réprimé dans le sang les émeutes de la Commune. Donc clairement, il n'avait pas bonne réputation à gauche.
Et pourtant, ça a tenu.
Oui, contre toute attente, ça a bien tenu. Et ça sera même un des gouvernements les plus longs de la Troisième République. Hein. 3 ans, de 1899 à 1902, une performance pour ce régime instable. Non seulement ça a duré, mais ces ministres de tous les horizons vont même marquer l'histoire.
Apolline. Comment?
Alors déjà, en réparant une injustice, hein, puisque c'est sous ce gouvernement qu'on réouvre le procès de l'affaire Dreyfus. Valdec-Rousseau va demander la grâce présidentielle pour le capitaine Dreyfus et il va l'obtenir. C'était un premier pas vers la réhabilitation. Ils font aussi passer beaucoup de lois favorables aux ouvriers, sur la limitation du temps de travail et sur la liberté syndicale. Bref, tout le monde a travaillé ensemble, sans renier ses convictions. D'ailleurs, un des derniers mots de Valdec-Rousseau sur son lit de mort, c'était « Dites bien que je n'ai jamais été socialiste ».«
Dites bien que je n'ai jamais été socialiste oui. ». C'est-à-dire oui, ce besoin voulait, jusqu'à la dernière seconde.
Il voulait
seconde.
Pas qu'on croit que... Voilà.
Il avait gouverné avec eux, mais qu'il n'était voilà. pas devenu. Pour vous, les socialistes, aujourd'hui, se montrent responsables en soutenant le gouvernement Lecornu ?
Bah oui, Apolline, s'il fallait tous être d'accord dans la vie pour travailler ensemble, rien ne se ferait, hein, donc oui. Même si les socialistes ne peuvent pas faire passer tout leur programme, ils remportent de petites victoires, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. Ils obtiennent des résultats, toute la gauche ne peut pas en dire autant.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et c'est Arnaud Demange qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, avouez que je vous ai fait un beau cadeau.
Oui.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC oui. et BFM TV, je reçois Patrick Sébastien.
Ah mais oui, aussi.
Oui, oui une matinée placée sous le signe de l'analyse politique avec Patrick Sébastien. Prends ça, France Culture. Allez, c'est nous qui l'avons. Et ce matin, à Pau, vous ne recevez pas le comique, l'animateur, mais le Alain Duhamel en Santiago, le Christophe Barbier, Poilou Néné, le Jean-Michel Apathy, Poilou Zizi, Patoche. Patrick Sébastien qui sort son livre « Même pas peur ». Parce qu'il a aussi fait la chanson, un livre sur nos peurs, nos angoisses, comment nous en libérer. Eh ben en faisant la fête, hein, c'est la fête ce matin chez Apo. Dans une période où tout est compliqué, et à ce sujet, Patrick souhaite peser sur la vie politique.
Parce que tu vois, Apolline, les politiques ils sont là, ils ont plus pied là, je vois, les gens ils souffrent, le peuple souffre. Il n'y a plus une thune nulle part, les gens. Moi, je vois, cet été au Cap d'Agde, ils étaient tous à poil. Faut faire quelque chose. Ça suffit.
Alors, Patrick ne se présentera pas en 2027, malheureusement. Je dis malheureusement, c'est l'humoriste qui parle, oui. moins le citoyen. Mais ça aurait été bien de le voir rencontrer Poutine.
Bonjour, monsieur Poutine. Très heureux de vous. Chabut. Je t'ai eu.
Dans la barbare, Poutine, que des dirigeants occidentaux qui faisaient du piano avec leur tub. Après Zelensky, Patrick Sébastien, qui lance son mouvement politique.
Ça suffit.
Pour le nom, il avait hésité entre « Ça suffit !» et « Sasuski ». Mais non. En fait, Bruno Retailleau avait déjà déposé « Sasuski » comme nouveau nom des Républicains pour illustrer leur politique vis-à-vis du RN. En tout cas,
oh mon Dieu.
Nos voisins de BFM Business vont encore râler. Hein. Ça va barder chez Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre.
« Emmanuel, il y a les voisins d'en face, les punks de RMC qui écoutent du Patrick Sébastien à 8h du matin.
Oh, » bon, je vais aller leur parler. Recouche-toi, Moumoune.
Emmanuel, on a sonné.
Oui.
Salut l'équipe de BFM Business. Alors moi, je suis venu chez vous parce que je veux aussi expliquer aux amateurs de business que ça suffit de se serrer la ceinture. Moi, je veux un monde où les gens n'auront plus besoin de se serrer la ceinture. Ils n'auront même plus besoin de pantalons. On sera tous en calcif à la soirée mousse de chez Denise. Hein, Edwige ?
Allez-vous-en !
Edwige, j'adore ta robe de chambre avec les photos de von der Leyen. Eh, fais pas ta mijaurée, j'entends parler de bourse toute la journée.
Parfait, vous appelle la police.
Les coinceaux, faites-moi une petite place dans votre plumard. Qu'est-ce qu'on est serré avec le chyprès, la chevrillon, chante.
Allez-y, allez-vous-en.
Oh, chochote.
Allez, rendez-vous avec Patrick Sébastien. À 8h30, ça va être bien.
À 8h30, à ne pas Patrick manquer. Sébastien, donc dans le face-à-face. N'hésitez pas d'ailleurs à venir l'interpeller ou à réagir au 32-16.
RMC vous offre 120 000 euros.
C'est énorme, c'est l'alerte. Arrêtez tout, il est l'heure de gagner 120 000 euros. 100 000 euros pour vous, net d'impôts, et 20 000 euros pour la personne de votre choix si quand on l'appelle, elle dit qu'elle écoute RMC. Alors parlez-en autour de vous et puis surtout inscrivez-vous parce que pour jouer, vous envoyez tout de suite RMC au 732-16. RMC au 732-16. Il est 7h28, vous avez donc 10 minutes et pas une de plus pour pouvoir vous inscrire et gagner les 120 000 euros. Je trouve ça trop bien. Franchement, non mais c'est vrai, c'est énorme.
120 000 euros et 20 000 euros pour moi.
120 000 euros. C'est sûr que si on vous appelle, vous dites que vous écoutez RMC,
RMC,
Mathieu.
C'est matin, midi, soir, la nuit.
Allez, RMC au 732-16. RMC au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Attention, il fait froid. A tout de suite. Il est 7h30 sur RMC, n'oubliez pas, il y a 2 minutes, l'alerte a sonné. Il vous reste donc 8 minutes pour vous inscrire et gagner les 120 000 euros. 8 minutes pour envoyer RMC au 732-16. Il y a 120 000 euros à la clé. Du côté du ciel, Géraldine, il fait froid.
faire hein, cette semaine, avec des températures qui vont baisser. Ce matin, malgré tout, ça reste encore assez doux. En revanche, cet après-midi, ça baisse bien. Il fera même d'ailleurs parfois plus frais cet après-midi que ce matin, avec 8 degrés attendus à Clermont-Ferrand, 10 à Lille, Paris, Lyon, 12 à Brest ou à Nantes. Il fera 13 à Bordeaux, 15 à Toulouse, 18 pour Marseille, jusqu'à 21 à Bastia. Et avec de la pluie, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et aux Vosges, ailleurs, il y aura une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, avec pas mal de vent, un vent de nord-est bien frisqué. Le pourtour méditerranéen retrouvera quand même le soleil.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS AgriCNAPS.
7h31, mais comme il y a 120 000 euros à la clé, vous me permettrez ce petit retard.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Alice Dangean. Bonjour Alice.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 12 ans, c'est le très jeune âge de l'adolescent qui s'est fait tirer dessus hier près d'un point de deal de Grenoble. Un profil qui pose question. On sera sur place dès le début de ce journal. Quand le lycée pro ne mène plus à la vie pro, c'est une information RMC. Un quart des élèves de cette filière reste plus d'un an sans emploi à la sortie. Et puis les entreprises tricolores à l'honneur du sommet Choose France cette année. Opération séduction menée par l'exécutif.
Les tireurs sont toujours en fuite ce matin après la fusillade qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble.
Quartier Chaurier-Béria, déjà théâtre de plusieurs règlements de compte l'an dernier et où le retour au calme n'aura été de courte durée. C'est là que l'on retrouve notre envoyé spécial Pierre Bazin en direct pour RMC. Pierre, l'adolescente de 12 ans visée par les tirs est toujours dans le coma à l'heure où l'on se parle.
Oui, le parquet de Grenoble indique que la jeune victime lutte toujours pour survivre. Son pronostic vital est encore engagé alors qu'il devait être opéré hier après-midi pour que les médecins puissent retirer l'une des trois balles qui l'ont atteint au dos et aux jambes. Et malgré le jeune âge de la victime, 12 ans, on le rappelle, les enquêteurs privilégient la thèse du règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Le jeune garçon était-il directement visé? Ou est-il la victime collatérale d'une guerre de territoire quand les bandes rivales s'en prennent aux jeunes guetteurs pour déstabiliser leurs concurrents? C'est ce qui est certain à ce stade, c'est que les faits se sont déroulés dans un quartier calme, mais au croisement de deux places de deal majeures. L'adolescent est un mineur isolé d'origine nord-africaine qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il avait multiplié les fugues de son foyer ces dernières semaines. Il était connu des services de police et de justice et devait comparaître le 10 décembre prochain pour détention, offre ou cession de stupéfiants. Ce drame intervient dans un contexte particulier à Grenoble puisqu'après une longue série d'agressions par arme à feu en 2024, les autorités s'étaient félicitées d'une baisse en 2025 qu'ils attribuaient à leur politique de harcèlement des trafiquants. Mais les faits de la nuit précédente rappellent une deuxième réalité. Les mineurs sont engagés de plus en plus jeunes par les organisations de narcotrafiquants.
Pierre Bazin, envoyé spécial d'RMC à Grenoble en direct ce matin. Il est 7h33 et les recherches vont reprendre en Ardèche. Après les fortes intempéries qui ont frappé le sud-est hier, un homme de 76 ans, originaire de Saint-Vincent de Barrès, est toujours porté disparu. Le premier adjoint au maire, Cédric Meugniot, raconte ce matin sur RMC.
On a un petit cours d'eau qui traverse la commune, qui s'appelle l'Orieteur. Cette personne habite à côté de ce cours d'eau, est plutôt habituée à voir le cours d'eau monter. L'eau est montée très rapidement aux alentours de 10 heures. Son véhicule a commencé à être un petit peu dans l'eau, il a voulu aller le déplacer. Son véhicule est parti et en essayant de rattraper son véhicule, visiblement, il aurait été emporté également. C'est son épouse qui a été témoin de la scène et qui a appelé les secours. C'est un retraité, un ancien infirmier qui est là depuis longtemps, très sympathique. Il connaît sa famille également. Ouais, une très triste nouvelle.
7h34, c'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. Un quart des élèves qui sortent de lycée pro restent plus d'un an sans emploi. Constat alarmant dressé par la fondation Break Poverty, une insertion professionnelle plus complexe que dans les filières générales. Vous l'avez constaté, Solène Leroux.
De nombreux stages réussis, un bac pro commerce en poche. Stevie, diplômé en juin, pensait trouver du travail rapidement.
Je demande rien de méchant en vrai. Juste vendeur. Je demande pas d'être directeur directement. Juste un simple employé qui veut juste travailler.
5 mois et une centaine de candidatures plus tard, autant de mails.
Sans réponse, sans rien.
Sans justification, sans piste d'amélioration même.
C'est pas ça qui va m'arrêter, hein. Je vais continuer à persévérer. Mais c'est vrai que, par exemple, pour une autre personne qui sera à ma place, c'est sûr que le moral, il sera au plus bas.
Et un sourire à toute épreuve malgré tout. N'empêche que ses refus à répétition lui donnent déjà envie de changer de voie. Dans son lycée, seuls 30% des élèves ont trouvé du travail après leur bac. La proviseure Séverine Lecomte.
C'est difficile à cause de leur jeunesse, leur manque de réseau, peut-être de leur manque d'expérience professionnelle. Pourtant, pendant leur semaine de stage, ils acquièrent beaucoup de compétences, mais qui semblent pas suffisantes aux yeux des entreprises, en tout cas aujourd'hui. Il faut leur faire confiance.
La proviseure prévoit de renforcer les partenariats avec des entreprises qui recrutent pour ces jeunes qui, je cite, ne demandent qu'à travailler.
L'impunité, c'est terminé. Voilà ce que dit ce matin le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, qui annonce que le gouvernement va poursuivre en justice le fonds d'investissement britannique Greybull, dernier repreneur en date de l'aciériste Novasco, ex-ASCOMETAL, qui vit en 11 ans son quatrième redressement judiciaire. Une annonce fracassante alors qu'on attend ce matin la décision du tribunal de commerce de Strasbourg sur les deux offres de reprise de l'entreprise, avec de la casse en perspective très probable. 144 postes sauvés sur les 700 que compte le métallurgiste. Et c'est dans ce contexte que l'Élysée lance ce matin le sommet Choose France, dédié cette année, et c'est une première, aux entreprises françaises, avec déjà 30 milliards d'euros d'investissement annoncé, Victor Joannon.
Oui, l'Élysée veut cajoler les patrons français, d'abord en mettant sur le devant de la scène ceux qui choisissent d'investir en France, comme le fabricant de pansements Urgo qui va ouvrir un site dans la Loire, ou la société bordelaise Hyperspace qui promet 20 millions d'euros pour développer des lanceurs spatiaux en métropole. L'idée est aussi de rassurer les investisseurs tricolores, alors que le patronat dénonce les projets de hausse d'impôts en débat au Parlement. Et même si la croissance et l'emploi tiennent bon, pour le moment la bataille de la réindustrialisation est loin, très loin d'être gagné. 80 usines ont ouvert depuis le 1er janvier, mais 108 usines sont menacées. C'est 50% de plus que l'année dernière, selon l'indicateur Usines Nouvelles publié il y a quelques jours. L'activité industrielle n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant Covid.
Le sommet de Choose France qui devra faire sans Emmanuel Macron cette année, car le président reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a évoqué un accord majeur en préparation entre Kiev et Paris. En football, l'équipe de France déjà qualifiée pour le mondial a déroulé hier en Azerbaïdjan. Victoire 3-1 des Bleus.
Et puis le Quintet Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 4, Katie Dugoutier. L'outsider, c'est le 9, Cassiopeia.
C'était le journal d'Élise d'Angers. On part au 32-16 à 7h37. Gilles qui nous appelle des Côtes d'Armor. Vous êtes à Bonze. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour à vous et félicitations pour votre émission.
Ah bah merci, c'est sympa. Bah je prends un lundi matin à 7h38. Gilles, vous vouliez réagir à mon invité à 8h30 tout à l'heure. Patrick Sébastien, vous y croyez? Vous estimez qu'il est légitime pour parler de politique?
Ben moi, je pense que c'est une personnalité importante dans le paysage plutôt humoristique et chansonnier français, mais c'est une personne qui pèse, dans le débat national. Et je pense que le livre qu'il a fait et les interventions qu'il fait en radio, en télé, je l'avais vu aux Grandes Gueules là.
Ouais.
Ça peut faire avancer les choses, quoi. Ça peut faire bouger les politiques.
Quelle est la question que vous lui poseriez?
Moi, je voudrais lui demander s'il pense être une des personnalités importantes de la France,
ouais,
qui peut faire avancer les choses en bougeant les lignes chez les politiques.
En bougeant les lignes, faire bouger
voilà,
les lignes.
Par exemple, je crois que c'est dans l'émission des Grandes Gueules, il a dit il y a un scandale dont on ne parle pas, c'est les SDF qui meurent dans la rue. Il disait l'an dernier, il y en avait 390, c'est-à-dire plus d'un par jour.
Exactement.
Personne n'en parle. Alors que la situation du logement est critiquable, on peut plus se loger, on gagne le SMIG et il faut donner la moitié de son salaire pour avoir un logement. C'est inaccessible pour la plupart des Parisiens et les gens qui vivent dans les grandes villes.
Pour vous, cette question du logement, ça serait une des questions prioritaires, Gilles?
Je pense que c'est la base, parce que les gens qui n'ont pas de logement ont du mal à trouver du travail.
C'est le début et la première, j'allais dire presque la première porte d'entrée en effet dans la vie active ou même tout au long de la vie. Gilles, retraité dans les Côtes d'Armor, merci beaucoup à vous. Et comme Gilles, vous n'hésitez pas, vous venez interpeller Patrick Sébastien. Ça se passe au 32-16, il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
12 ans et déjà lié au narcotrafic. Un jeune garçon a été grièvement blessé en pleine nuit à Grenoble ce week-end. Il est dans le coma après avoir reçu 3 balles. Ses agresseurs ont pris la fuite. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la grande criminalité. Vous avez créé cette association pour justement que les citoyens eux-mêmes s'emparent de la lutte contre le narcotrafic. Votre association, elle s'appelle Crime Halt. Cet adolescent, ce serait l'une des plus jeunes victimes du trafic de drogue, mais lui-même aussi mêlé à ce trafic, ce cercle vicieux, ce rajeunissement et ces étapes encore franchies. On va reparler aussi de ce qui s'est passé à Marseille la semaine dernière. On en parle dans un instant. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. Touché par une balle dans le dos, deux dans la jambe, à seulement 12 ans. Ça s'est passé dans la nuit samedi à dimanche à Grenoble. Le narcotrafic n'a plus d'âge. Bonjour Fabrice Rizzoli, vous êtes spécialiste de la grande criminalité. Vous avez créé cette association Crime Halt et je veux qu'on en parle aussi ce matin parce que vous invitez au fond les citoyens à eux-mêmes se saisir de la lutte contre le narcotrafic. Fusillade donc à 3h du matin à proximité d'un point de deal. Pas de doute sur le lien avec le trafic de drogue. Ce jeune garçon qui est entre la vie et la mort, dans le coma, le procureur estime que le narcotrafic est évidemment en cause. Ce jeune garçon, il n'est pas seulement victime, il était aussi lié lui-même au trafic de drogue, 12 ans.
Oui, 12 ans, c'est très très jeune, c'est pas la plus jeune victime, rappelez-vous, hein, Fayed, Nîmes, 10 ans. Et puis de vous à moi, oui, il était impliqué dans le trafic, mais enfin à 12 ans, on est une victime. Et d'ailleurs, le procureur Nicolas Besson à Marseille avait dit que pour toutes ces personnes qui étaient recrutées 12, 13, 14, 15 ans et qui venaient à Marseille, qui finissaient dans une cave et qui étaient parfois torturées, c'était plutôt des enquêtes pour traite des êtres humains qui pouvaient être ouvertes. Donc, impliqués, d'accord, mais 12 ans, c'est une victime.
Mineur isolé, donc lui-même aussi en marge, oui. C'est typiquement les cibles, au fond, des trafiquants de drogue parce qu'ils sont malléables, parce qu'ils sont corvéables à merci.
Oui, de tout temps, dans les mafias ou ailleurs, les jeunes mineurs sont utilisés pour les premières missions, par exemple, de la vente de la drogue, hein, comme surveiller le chouf, comme on dit dans les points de deal en France, ou convoyer la drogue, etc. Ça, c'est rajeuni. Recrutement anonyme, recrutement par réseaux sociaux, par des gamins qui viennent de partout en France, ou là, par des jeunes mineurs isolés qui peuvent être souvent des étrangers livrés à eux-mêmes.
Mineurs isolés, nord-africains, déjà connus pour détention et effectivement offre de stupéfiants. Il était convoqué par la police le 10 décembre prochain, par la justice, pardon. Ces jeunes, comment faire pour les aider justement à ne pas basculer dans le trafic et en même temps à avoir la fermeté qu'il faut?
Alors là, il existe des dispositifs en France, hein, d'aide sociale à l'enfance. Simplement, il va falloir un jour mettre sur la table la question des moyens. Vous avez aujourd'hui une baisse drastique de l'argent public qui va vers certains services publics. Je rappelle que nous avons deux fois moins de procureurs que dans l'ensemble des pays de l'Europe. Nous avons un problème d'officiers de police judiciaire et des services d'enquête défaillants du point de vue du nombre de personnes et de l'affectation. Et c'est pareil pour les services sociaux. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir beaucoup plus globale sur comment on peut protéger nos mineurs avec les institutions qui existent déjà.
Attention, hein, le chiffre est colossal. On parle de 10 000 mineurs impliqués dans le trafic de stupes, d'après le ministre de l'Intérieur.
Oui, donc il faut mettre tous les moyens. C'est de 230 000 personnes qui vivraient du trafic de stupéfiants avec des cas très hétérogènes. Hein, des gens qui sont à Dubaï, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis tout un peuple là de chair à canon qui soit vend et perd tout, passe par la case prison sans arrêt, ou ces jeunes qui sont carrément parfois livrés à eux-mêmes. Ou les victimes innocentes, comme je le rappelle, hein, nous avons eu quelque chose du comble de l'horreur vendredi avec Mehdi Kessassi qui a été assassiné.
J'allais y venir évidemment parce qu'on se dit qu'on a basculé à nouveau. On pensait qu'il n'était pas possible de basculer encore plus loin, mais cet assassinat, Mehdi Kessassi, le frère des figures de Marseille, figure associative et politique marseillaise, Amine Kessassi, qui précisément lutte contre le trafic de drogue, et d'après le procureur de Marseille, il pourrait en effet s'agir d'un assassinat d'avertissement, comme on dit, c'est-à-dire, au fond, pour faire taire Amine Kessassi. Ça veut dire que désormais, c'est la même logique que la mafia.
Oui, c'est la même logique que la mafia, mais des victimes innocentes, victimes de leur devoir, quoi, qui étaient réellement ciblées comme des juges en France, ça a déjà existé, des policiers, ça a déjà existé. Ici, si ça se révèle vrai, parce qu'ils n'ont pas pu tuer Amine qui était protégé, parce qu'il y avait déjà des menaces de mort à son encontre, alors ils ont tué son frère. Alors plus qu'un avertissement, si vous me permettez, parce qu'effectivement il y a un message.
C'est le terme utilisé par...
Oui, mais je préfère dire plus qu'un avertissement, si vous le permettez. Certes, il y a un message à Amine, arrête ton militantisme, arrête de parler de nous et de mettre la lumière sur notre trafic, mais il y a une punition. Parce que, excusez-moi, dans la mafia, un message, c'est quand on brûle votre voiture, c'est quand vous recevez des cartouches, c'est quand vous téléphonez,
c'est quand on vous menace. Or là, on ne menace pas, on a tué.
Bien sûr qu'il y a une menace, arrête tes activités, mais là, on a tué son frère. On est beaucoup plus dans la punition, et vous avez raison, si c'est le cas, on a basculé dans quelque chose de plus grave. Une petite parenthèse aussi, arrêtons l'angle de on recrute des jeunes qui savent pas tirer à la Kalachnikov. Là, le mode opératoire, deux personnes en moto qui laissent bien la maman rentrer dans la pharmacie, qui se trompent pas de cible et qui tuent que le frère, c'est du grand professionnalisme.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui tuent de sang-froid.
Bon bah évidemment, même quand vous envoyez parfois un gamin tirer à la Kalachnikov sur la cité, on sait très bien ce que le donneur d'ordre, on sait très bien qu'il sait ce qu'il fait. Mais là, il y a du professionnalisme et encore une fois, la nouveauté, ça serait qu'on abat quelqu'un d'innocent parce qu'on n'arrive pas à avoir l'autre cible que l'on a choisi.
Et demain, ça peut être les magistrats, demain, ça peut être les policiers. J'ai presque envie de vous poser la question, Fabrice Rizzoli. Est-ce que vous avez peur ?
Ah, eh ben, écoutez, je sais pas, tant que je reste à Paris, tout va bien. Je pense qu'on est souvent menacé quand on est sur le territoire, ici, Marseille. Je rappelle, par exemple, la grande manifestation qu'il y a eu en Corse avec tous ces homicides, cette impunité, le fait que la justice n'arrive pas à condamner les assassins professionnels en Corse qui sévissent depuis 30 ans, très très peu d'affaires élucidées. Il y avait une grande manifestation. Donc je pense que ce sont les personnes qui sont dans l'œil du cyclone, sur le territoire, qui risquent beaucoup. Et quand vous parlez de magistrats, je vous rappelle qu'il y a déjà eu des menaces pour directeur de prison, agent pénitentier, etc.
Et qui avec sont des menaces protection. Jusqu'à leur domicile, effectivement, et qui sont sous protection. Le problème, c'est que est-ce qu'il faut aller jusqu'à protéger les frères, les enfants, les parents de ces gens qui sont dans le viseur, dans le collimateur. Ce que vous dites à l'instant aussi de cette inquiétude globalement sur le terrain, c'est absolument terrible. Et je pense que là, on a basculé effectivement dans quelque chose. C'est important d'en parler, Fabrice Rizzoli, cette manifestation aussi à Marseille, où les habitants eux-mêmes se sont emparés en quelque sorte de cette question. C'est à cela que vous appelez avec votre association Crime Halt. Fabrice Rizzoli, merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio, spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt, 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La voix de droite sur RMC, comme chaque lundi, c'est vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Il faut davantage de rotation dans les HLM, c'est la demande du ministre du Logement, le LR Vincent Jeanbrun, qui veut en finir avec les logements sociaux à vie.
Oui, la France, c'est 3 millions de demandeurs de logements HLM et bien sûr seulement 8% de rotation. Ce système ne fonctionne plus, il est temps de tout changer.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu Renaud prépare son grand retour sur scène. Toujours vivant.
Trois concerts exceptionnels au mois de mai prochain. On est en plein dans la célébration des 50 ans de carrière de Renaud. Une année riche en hommages. Il y a eu le livre Renaud le livre, dirigé par sa fille notamment. Un ouvrage illustré, intime. Renaud qui se raconte aussi, hein, qui reparle en interview sur sa voix, pas toujours au rendez-vous, concède-t-il. Il se dit fier d'avoir arrêté de se détruire et il clame son envie de nouveaux projets. Justement, trois disques sont en préparation, notamment un projet de reprise. Le chanteur dit prendre son temps, avancer doucement, mais sûrement. Et pour fêter son demi-siècle de carrière, il sera donc sur scène. Trois concerts exceptionnels, 14, 15, 16 mai prochain au Zénith de Paris. Et ne perdez pas de temps, la billetterie ouvre ce matin à 10h. Prenez vos places pour Renaud au mois de mai prochain.
Toi, tu fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu butes et marche à l'ombre.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La fin des HLM à vie, proposition du ministre du Logement. Il veut des pouvoirs, il veut pouvoir réévaluer la situation du foyer tous les 3 ans et que ça puisse permettre une sorte de turnover, que ça tourne dans les logements HLM. Vous dites enfin ?
Enfin, et c'est surtout un débat qu'on aurait dû ouvrir, Apolline, depuis longtemps. Aujourd'hui, la rotation dans les HLM est en dessous de 8%, c'est l'immobilité. Total, le résultat, c'est que près de 3 millions de Français sont aujourd'hui demandeurs et attendent un logement, pendant que des gens qui n'ont parfois plus les droits, ils restent faute de mécanismes clairs. Un logement social ne peut pas devenir une rente héréditaire, c'est un filet de sécurité d'abord. Réévaluer tous les 3, 6 ou 9 ans, en fonction des revenus ou de la taille du foyer, c'est ce que vous préférez, Apolline, c'est juste du bon sens.
Alors, il existe déjà des règles, hein, Louis, il faut le dire quand même, sur loyer, obligation de quitter le logement en cas d'augmentation des revenus, mais vous avez l'impression que ça ne marche pas, ou en tout cas que ça ne suffit pas.
Il force est de constater que ces règles existent sur le papier, mais que ça ne fonctionne effectivement pas. Elles ne sont presque jamais, en réalité, appliquées. Dans certains territoires, on ferme les yeux, on contourne, on suspend les expulsions pour 1000 raisons, et rien ne bouge.
Rien ne bouge pour 1000 raisons, justement. Est-ce que l'innovation peut aider à repenser ce système ? Est-ce qu'on manque d'idées neuves, en fait ?
Ah, bien sûr qu'on manque d'innovation dans ce sujet. Le logement social français tourne avec des idées des années 80. Le logement est vital. Nous sommes d'ailleurs en pleine crise et pourtant nous n'arrivons pas à innover. Regardez par exemple ce que propose le député LR Philippe Juvin. On peut aimer ou pas, mais c'est une idée neuve, permettre sous conditions strictes à un locataire de HLM de devenir propriétaire à titre gratuit de son logement. C'est directement inspiré du Right to Buy de Margaret Thatcher. C'est une façon de créer une démocratie de propriétaires, de responsabiliser les occupants, d'encourager l'exemplarité. L'idée est simple, vous avez un HLM et pas de troupe, pas d'impayé, pas de casier judiciaire vierge. Bref, un comportement parfait pendant 20 ans, votre logement vous revient gratuitement. Est-ce que c'est parfait ? Non. Mais au moins ça réfléchit, ça innove, ça bouge. Et Dieu sait que la France a dramatiquement besoin d'innovation.
Pas de casier judiciaire, évidemment. Pour vous, la proposition Juvin, est-ce qu'elle est vraiment possible en France ? Est-ce que c'est trop radical sinon ?
Alors elle est possible, et oui, elle est aussi radicale. Mais parfois, il faut oser. Le débat a été caricaturé et peu de personnes en vérité ont étudié le fond du sujet. Pourtant, donner la possibilité, je dis bien la possibilité, d'accéder à la propriété à prix décoté sous contrôle de l'État avec l'interdiction de revendre pendant 5 ans, c'est parfaitement cohérent. Avec ça, on achète la paix sociale et on fait rentrer des millions de bons citoyens dans le capitalisme.
Et la question du bail, 3-6-9, est-ce que ça vous paraît une bonne chose ?
Oui, absolument. La France a besoin de logements. Il est temps d'arrêter de sanctuariser l'immobilisme et de diaboliser ceux qui proposent d'innover. Le logement social doit être protecteur et non figé. Et pour ça, il faut accepter que rien n'est à vie, sauf la dignité.
Merci Louis. Louis Sarkozy, voix de droite sur RMC tous les lundis et tous les mercredis. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant sur RMC, le journal de 8h, 760 emplois vont-ils disparaître ? Le tribunal de Strasbourg doit trancher dans une heure l'avenir des aciéries de Novasco. Nous serons sur place dès le début du journal. Et puis la météo, c'est le retour du froid. Et juste après le journal, il y aura aussi Manu Le Chypre. Emmanuel, on parle d'économie avec vous ce matin.
Mais oui, Choose France, un sommet pour retenir les entreprises françaises.
Oui, pour pas qu'elles partent, vous nous le dites dans un instant. Il est 7h56 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Il est 7h59, tiens, 8h, tout pile. Très bon lundi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'impunité s'est terminée. Voilà la promesse ce matin du gouvernement dans le dossier Novasco. La justice va très certainement annoncer ce matin la liquidation de 3 des 4 usines de ce fleuron de l'acier. Et le gouvernement va attaquer en justice le groupe britannique qui avait repris Novasco il y a seulement un an. Volodymyr Zelensky à Paris. Aujourd'hui, le président ukrainien arrive dans la capitale pour demander des armes à Emmanuel Macron. Et le procès du drame de Cholet à l'été 2022, souvenez-vous quand le feu d'artifice du 14 juillet avait tourné au drame et fait 2 morts.
C'est à 9h que le coup près va tomber pour les salariés de Novasco.
Oui, Novasco, ce sont les anciens Ascometal. Hein. Ils en sont à leur quatrième redressement judiciaire en 11 ans. Et on se dirige tout droit ce matin, 9h, au tribunal de commerce de Strasbourg vers la liquidation de 3 des 4 sites du groupe. En fait, seulement une usine, celle près de Dunkerque, serait sauvée. Seulement 150 emplois sur 760, tous ceux de Saint-Étienne. Ceux de près de Nancy et ceux d'Agondange qui vont se retrouver sur le carreau. C'est le cas de Stéphane, par exemple. Il travaille à Agondange depuis 15 ans.
Il y a quelques temps en arrière, au mois de juin, on continuait à travailler, on parlait d'autres choses. Tout s'est vraiment accéléré pendant ces mois-là. Et le fait de dire que l'usine va mourir va déjà mettre un gros coup émotionnel auprès des salariés. 15 ans de ma vie partis en fumée comme ça et qu'on nous laisse tomber, hein, très clairement, on aurait pu nous sauver mille et une fois. Et aujourd'hui, on a l'impression de un peu mourir dans le silence, quoi.
Alors Amélie Courtet, c'est vous qui avez recueilli cette réaction ce matin en direct pour RMC depuis le site d'Agondange. On vous retrouve en attendant le coup près. L'info ce matin, c'est que le gouvernement décide de poursuivre en justice le fonds d'investissement britannique qui avait repris Novasco il y a seulement un an et qui n'a pas tenu ses engagements.
Oui, vous l'avez dit, l'impunité s'est terminée, dit le gouvernement qui saisit les tribunaux contre l'ancien repreneur britannique Greybull, qualifié de voyou. C'est eux qui avaient repris Novasco l'an passé. Ils avaient promis d'investir 90 millions d'euros, tandis que l'État investissait 85 millions dans l'acieriste. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, assure le ministre délégué chargé de l'industrie Sébastien Martin, qui affirme que seulement 1,5 million d'euros ont été apportés en fonds propres. Il les accuse également durant ces dernières semaines de ne ne pas avoir apporté de propositions concrètes et sérieuses sur l'accompagnement des salariés de Novasco. Ce n'est pas l'État qui est en cause, résume le ministre, se dédouanant de toute responsabilité sur la situation actuelle. Le tribunal de Strasbourg risque d'annoncer dans une heure la liquidation de 3 sites sur les 4, dont celui où je me trouve à Gondange. C'est la plus grosse usine. Ici, on y fabrique essentiellement des pièces de sécurité pour l'automobile. 450 salariés au total, tous menacés devant moi. Ils sont une petite dizaine là, à se réunir en ce moment, bloquant la route vers le site principal de fabrication en brûlant des palettes. Ils sont agréablement surpris de cette décision de l'État. Eux aussi envisagent d'attaquer Grébulle individuellement par leur avocat s'il n'y a pas réparation après la mort annoncée de leur métier.
Et voilà dans quel contexte va se tenir aujourd'hui la première édition 100% française du sommet Choose France. Vous savez, ce sommet est consacré uniquement aux investisseurs français. Cette fois, déjà 30 milliards d'euros d'investissement ont été promis en plein débat sur le budget avec les craintes répétées des patrons. On les entend régulièrement en ce moment. Emmanuel Le Chip va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. En attendant, c'est à 9h30, donc ce matin, que Volodymyr Zelensky va rencontrer Emmanuel Macron. Le président ukrainien est à Paris. C'est la 9e fois qu'il vient en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a lui-même annoncé un accord majeur en préparation. Concrètement, Romain Houg, il vient chercher des armes.
Oui, les deux chefs d'État vont se rendre ce matin sur la base aérienne de Villacoublay, la base 107, où Volodymyr Zelensky se verra présenter de l'armement de conception française, notamment le Rafale, le fameux avion de combat, mais aussi un système de défense anti-aérienne nouvelle génération qui dispose de plus grandes capacités d'interception de missiles. L'objet de cette visite, c'est évidemment pour le président ukrainien de renforcer son arsenal militaire, en particulier dans les airs. L'Ukraine est sous le feu des drones russes lancés pratiquement toutes les nuits contre son territoire, et l'utilisation de drones, c'est vraiment un point clé dans la stratégie militaire de l'Ukraine. Ils sont responsables de 70% des destructions de matériel ennemi sur le front. Oui. L'armée ukrainienne entend en utiliser 4,5 millions cette année. C'est d'ailleurs cette question des drones qui sera au cœur du forum franco-ukrainien auquel participeront les deux dirigeants dans l'après-midi.
Un adolescent de seulement 12 ans, toujours entre la vie et la mort ce matin, touché par 3 balles dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble. Ça s'est passé au pied d'un point de vente de drogue. La préfecture de l'Ain porte plainte après les incidents de samedi soir à Bourg-en-Bresse. Ce que vous entendez, c'est un rassemblement de tuning qui a dégénéré sur le parking du Leclerc, Bourg-en-Bresse. 800 voitures, 3000 personnes présentes pour ce rassemblement qui n'était pas autorisé. L'intervention de la police a tourné à l'affrontement à coups de tir de mortier. 3 véhicules policiers dégradés. On reparle ce matin du drame de l'été 2022 à Cholet. Vous vous souvenez peut-être du feu d'artifice du 14 juillet qui avait fait 2 morts. En l'occurrence, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Des fusées avaient atteint la foule. Eh bien, le maire, son adjoint, l'artificier et l'organisateur de la soirée sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal judiciaire d'Angers. Pour homicide et blessures involontaires, hein, Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, les victimes de ce drame attendent des réponses sur les responsabilités des prévenus dans cette affaire.
Margot avait 16 ans à l'époque. Elle était juste à côté du petit garçon et de sa grande sœur qui ont été tués.
Tout d'un coup, il y a une fusée, clairement, qui est partie dans la foule. J'ai ressenti une sorte de chaleur, ça sentait la poudre. J'ai vu les deux personnes qui sont décédées. C'est quelque chose qui m'a traumatisée. Ça handicape au quotidien parce que ce stress post-traumatique, il est tout le temps. J'ai du mal, en tout cas, à aller dans les endroits de fête où tout le monde est joyeux parce que moi, je me dis, la dernière fois que je suis allée dans un truc comme ça, il s'est passé un drame. Et du coup, maintenant, en fait, je me sens plus en sécurité nulle part.
Margot assure qu'elle n'imaginait pas être en danger ce soir-là. Or, les mesures élémentaires de sécurité n'ont pas été prises, dénonce son avocat, maître Pascal Rouillet.
Il n'y avait aucun barriérage pour protéger les gens et le public nombreux. L'amateurisme, les approximations sont incroyables.
Parmi les prévenus, le maire UDR de Cholet, Gilles Bourdoulex, est lui aussi jugé pour homicide et blessures involontaires. Mais ses avocats soulignent qu'il avait délégué ses pouvoirs à son adjoint et qu'il ne s'estime donc pas responsable.
Rendez-vous judiciaire aussi aujourd'hui pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, qui vont se retrouver au prud'homme. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Kevin Morand, c'est la fameuse affaire de 55 millions d'euros d'impayés que l'attaquant réclame à son ancien club.
Oui, et ce sont donc quatre conseillers prud'hommes qui devront trancher ce litige entre le joueur et le PSG qui remonte à l'été 2023. Mis à l'écart pour avoir refusé de prolonger afin de quitter le club libre en fin de saison, Kylian Mbappé est finalement réintégré à l'équipe professionnelle du PSG. En échange, selon le club, le joueur était d'accord pour renoncer à une partie des sommes dues à la fin de son contrat. Une version réfutée par le camp Mbappé qui réclame donc le versement de salaires et de primes impayées, soit 55 millions d'euros au total. Mbappé demande aussi désormais la requalification de son CDD en CDI, maître Élie Dautelonde, avocat au barreau de Paris.
C'est rare que le conseil des prud'hommes tranche des questions avec des montants aussi élevés, mais Mbappé reste injusticiable comme les autres.
Compte tenu des délais aux prud'hommes, la décision ne pourrait intervenir que dans plusieurs mois.
Sans Mbappé, tiens, les Bleus qui ont terminé les éliminatoires pour le Mondial par une victoire 3 buts à 1 en Azerbaïdjan hier soir, en attendant maintenant le tirage au sort de la phase de poule de ce Mondial le 5 décembre prochain. Les Bleus du rugby sont de retour à Marcoussis pour préparer le troisième match de la tournée d'automne qui est pas brillante jusque-là. Il y a deux changements dans le groupe élargi pour préparer le troisième match samedi contre l'Australie, le Toulousain Gourgue et le Montpellier Anouchi qui sont appelés en renfort.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08 sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
C'est l'heure de parler économie avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Un nouveau sommet Tous France qui se tient aujourd'hui, mais alors attention, uniquement avec des entreprises françaises.
Oui, d'habitude, ces sommets qui se tiennent en grande pompe au château de Versailles ont pour but de convaincre les patrons étrangers de venir investir en France. Ils étaient 400 encore au mois de mai, de 46 nationalités différentes. Là, l'objectif, c'est de réunir 150 patrons français pour les convaincre de continuer à investir en France et surtout de les rassurer dans cette période de débats budgétaires électriques qui ont vu chaque jour s'allonger la liste des nouvelles taxes que la gauche et le RN veulent leur imposer.
Le problème, c'est que c'est pas seulement le débat budgétaire qui inquiète les patrons.
Absolument. La meilleure preuve, c'est que le début de la réindustrialisation, perceptible depuis 2017, a fait long feu puisque pour la deuxième année consécutive, la France a fermé davantage d'usines en 2025 qu'elle n'en a ouvert. C'est ce que montre le recensement que vient de publier l'usine nouvelle. Entre janvier et mi-novembre, 80 sites industriels ont ouvert, mais 108 ont fermé ou sont sérieusement menacés. C'est deux fois plus qu'en 2024. Et puis, les difficultés ne sont plus seulement concentrées dans le secteur de l'automobile. Il y a aussi l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la métallurgie ou le textile habillement qui sont concernés par ces fermetures.
Est-ce que le gouvernement a quand même suffisamment d'arguments pour tenter de convaincre les entreprises de rester en France, ouais, et deux, de miser encore plus sur la France?
Il va essayer de montrer la plus belle vitrine possible, ouais, aujourd'hui. Il va annoncer 30 milliards d'investissements français répartis dans 151 projets. Il y a ceux de Safran, il y a ceux d'Urgo, il y a ceux de Danone, de Sanofi qui sont assez emblématiques. Sauf que sur ces 30 milliards, il n'y en a que 9 qui sont réellement consacrés à des projets nouveaux. Et puis le problème pour ces patrons, c'est pas de savoir comment va la France aujourd'hui. C'est que quand vous décidez d'investir, c'est pour les 10-15 ans qui viennent. Donc en gros, pour eux, le pari, c'est à quoi ressemblera la France dans 10 ans. Et au vu de l'évolution politique des 20 dernières années, que ce soit les majorités de gauche, les majorités de droite, rien n'indique aujourd'hui que la France ne sera plus le pays des coûts de production élevés, des impôts records, de l'instabilité réglementaire, des diktats écologiques, et qu'elle saura enfin valoriser ses atouts qui sont incroyablement nombreux. Il faut le rappeler, en fait, tout le monde dit, il n'y a pas un pays qui gâche le plus ses chances aujourd'hui en Europe que la France. Donc miser sur la France aujourd'hui, c'est comme miser sur un pays émergent. Beaucoup de potentiel, mais beaucoup de risques que ça ne marche pas.
Merci beaucoup Emmanuel, 8h10. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud de Mange qui nous rejoint. Restez bien avec nous. C'est avec aussi mon invité de 8h30, je vous le dis, ce sera Patrick Sébastien.
Tout de suite. Jour en lire, la fiesta, la fiesta. On va lancer le vélo vert. La fiesta, la fiesta.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14, vous regardez RMC Story, vous écoutez RMC et c'est l'heure de rire avec Arnaud de Mange. Bonjour Arnaud.
Bonjour les amis. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi matin, les copains. Non, c'est sympa de bosser entre amis. Ça fait une petite ambiance et tout, c'est chouette.
C'est vrai, c'est vrai.
J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'étais à Verdun. Je suis allé à la messe en hommage au maréchal Pétain. Non, je déconne. Oh là là, je déconne. J'ai pas pu, il y avait plus de place. Non, mais il y a vraiment eu cette messe organisée à Verdun par une association qui défend la mémoire du maréchal. Et il y a des gens qui sont vraiment allés là-bas, quoi. Alors après, le week-end à Verdun, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Donc, le week-end prochain, d'ailleurs, sachez que dans la Marne, on organise une soirée échangiste organisée par l'association des amis de l'abbé Pierre.
Non.
À
non.
ne pas louper. Mais Pétain, quand même, il a collaboré, il a livré des juifs, il a créé la fête des mères. Ça, Apo me disait, la fête des mères, je pardonnerai jamais. 15 ans à devoir porter des colliers de nouilles à l'antenne.
Je l'ai fait.
Ah oui,
je les ai portés, oui.
Et ben voilà, c'est un calvaire ce truc. Mettre des fleurs dans les vases en pâte à sel, faire semblant d'être contente en écoutant des poésies. Salaud de Pétain. Alors à quoi ça pouvait ressembler cette messe?
Bien chers frères et sœurs, célébrons aujourd'hui la figure de paix, figure de réconciliation du maréchal Pétain. Pétain a su tisser des liens entre nous. Pétain a su coudre le tissu social. Oui, Pétain coup, ça fait du bien.
Oh non,
non mais on reçoit Patrick Sébastien dans 5 minutes.
Je
pars le terrain. L'extrême droite a répété pour l'occasion ce mensonge démenti 1000 fois. Pétain a sauvé des milliers de juifs en livrant moins que prévu. Éric Zemmour avait déjà dit ça. C'est un peu comme dire que Xavier Dupont de Ligonnès aimait tellement sa famille qu'il leur a épargné 10 ans de présidence Macron. Vous voyez, c'est un peu ce même raisonnement. Et Dominique Pellicot qui a tellement fait pour qu'on parle enfin de la soumission chimique. Alors chez les insoumis, on a protesté. Même si on a des lacunes, Sébastien Delogu, le député LFI, souvenez-vous, il ne savait même pas qui était Pétain.
Je ne sais pas qui est Pétain.
Vous vous souvenez de cette histoire? Je ne sais pas qui est Pétain.
Oui,
d'accord, mais ça vous choque qu'on dise qu'il a sauvé des juifs? Ah bon, il a sauvé des juifs? Ah ouais, c'est pas bien. Non, c'est un sioniste, Pétain. Non, non. Je suis sûr qu'ils ont un musée du pétainisme à Tel Aviv. Apprenez vos leçons d'histoire, les enfants, ça évite des drames.
Oh mon Dieu. Le chanteur Alain Souchon a créé une polémique en déclarant ne pas croire que les Français soient, je cite, assez cons pour voter Rassemblement National en 2027.
Oui, alors d'un point de vue purement commercial, traiter de con 40% de ta clientèle, je sais pas si c'est l'idée du siècle. À McDo, ils ont compris ça, hein. Ils font, venez comme vous êtes.
Voilà.
Ils disent pas, allez les obèses, venez. Vous nous dégoûtez, mais vous avez de l'argent. C'est pas ça leur slogan. Vous voyez, au moment de vendre des Twingo, le slogan de Renault, c'était pas « comme vous êtes naïf ». Alors, Alain Souchon a reçu des milliers de messages venant d'une foule pas vraiment sentimentale. Et non, Alain Souchon qui a ajouté « si le RN passe, je pars vivre en Suisse ». Alors Alain, si tu penses que la Suisse brille par son engagement contre l'extrême droite...
Oui.
Toi aussi, il est temps que t'ouvres un bouquin d'histoire. Alors, il n'est pas seul, puisque tous les tennismans français ont aussi déclaré que si le RN passait en 2027, il resterait en Suisse, où ils vivent depuis 20 ans. Ben, on a des sportifs engagés.
Ouais.
En tennis, ils sont pas bons, mais au moins en histoire, ils sont nuls aussi.
Voilà. Arnaud, le patron du BHV, Frédéric Merlin, a reporté l'ouverture des 5 magasins Shein en région.
Oui, il veut prendre son temps pour, je cite, s'adapter aux particularités locales. Alors, rappelez-vous, Frédéric Merlin, c'est le type qui a dit à ses clients « Je fais ça pour vous, hein, les gens qui savent pas s'habiller ». C'est une vraie citation. Mais oui, du coup, il veut s'adapter aux provinciaux. Salut les villageois, salut les ploucs. Dans vos trous paumés de beaufs de province, j'ai compris qu'il y avait des particularités à respecter. Car vous, les cutéreux, vous êtes différents des parisiens. Non seulement vous vous fringuez mal, mais en plus, vous êtes pauvres. Alors, nous allons nous adapter. Parce que, pour que vous ayez du Shein à pas cher, nous allons relocaliser la production à proximité de vos bourgades. Avec Shein, notre partenaire Shintok, nous allons installer un camp de travail ouïghour en banlieue de Châteauroux, en banlieue de Saint-Nazaire ou de Montluçon, ou d'un autre de ces bidonvilles pittoresques où vous vivez. Bien sûr, c'est horrible, mais heureusement pour les Ouïghours, ils n'auront pas le temps de visiter le centre-ville de Châteauroux. Au BHV, on n'est pas si cruel. Et ce n'est pas tout. Comme chaque marché a ses spécificités, nous nous adapterons. Les ch'tis, par exemple. Nous savons que vous aimez que vos poupées sexuelles vous ressemblent comme si c'était une cousine ou une nièce. Eh bien, nous les ferons sur mesure à partir d'une simple photo de famille.
Non.
Et oui, vous êtes bien avec les BHV Merlin. Faut qu'il revienne, lui. Faut qu'on le re-reçoive. Allez, à demain. Et bon Patrick Sébastien.
En effet, je sens que vous avez hâte.
Ah, moi j'ai hâte.
Vous avez hâte qu'il soit 8h30 parce qu'effectivement, dans un instant, mon invité, c'est Patrick Sébastien. Et pourquoi pas, je vais vous dire, je suis quand même frappée depuis 3 semaines les mots que les hommes politiques eux-mêmes utilisent pour qualifier ce qu'il se joue à l'Assemblée nationale. Le très sérieux président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit que c'est un véritable cinéma, que c'est un spectacle, que ce sont des guignols. Alors au fond, eh bien Patrick Sébastien, qui certes a été à la tête du plus grand cabaret du monde, eh bien aujourd'hui, il parle aux Français, il fait un tour de France, il recueille leurs
condoléances et il les porte. Alors voilà, il viendra le dire à mon micro dans un instant. Patrick Sébastien, ça se passe dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour madame. Mademoiselle, on n'a plus le droit.
Vous auriez pu, ça me fait plaisir. Patrick Sébastien, vous êtes évidemment animateur, chanteur, auteur de ce livre qui vient de sortir, Même pas peur aux éditions IXO. On va y revenir, vous parlez de cette société où on aimerait faire peur, dites-vous, aux gens, mais précisément, vous n'avez pas peur, vous n'avez même pas peur de la mort, dites-vous.
Si, mais pas seulement, j'ai fait le tour de nos peurs, parce que les peurs sont partout. La peur du regard des autres, la peur qui nous est instillée par les médias, la peur d'entreprendre, ça nous entoure. Et donc, à partir de mon propre vécu, je donne des conseils aux gens pour éviter certaines peurs, justement.
Alors ça, c'est dans votre livre. Parallèlement, vous avez lancé un mouvement, ça s'appelle « Ça suffit » et vous voulez être le porte-parole des revendications des Français. Et je vais vous dire aussi pourquoi je vous ai invité, Patrick Sébastien. Et je voudrais aussi l'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Parce que depuis des semaines, notre quotidien, notre vie politique hérite mais par des discussions sur un budget dont on ne sait même pas s'il va aboutir et s'il en restera quelque chose. Et les mots utilisés par les politiques eux-mêmes, y compris les plus sérieux, c'est cinéma, spectacle, sorcellerie, guignol. On n'est pas loin du grand cabaret, mais au fond, vous prenez-vous la politique malgré tout au sérieux. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir votre regard sur ça, sur ce que même appelle le cinéma.
C'est pas malgré tout, c'est que moi je suis la caricature. Tu sais, je suis une caricature. C'est d'ailleurs quand j'ai commencé à parler de ce moment, retourne faire tourner tes serviettes. Cette sorte de mépris qu'il y a pour moi, c'est un mépris général pour toute une France qui a plus la parole, qui en a marre. Si je vous dis ça suffit, c'est parce que c'est ce que j'entends le plus autour de moi. Et je suis très légitime pour ça, parce que tout mon parcours de vie, j'ai jamais lâché ces gens-là. C'est pas forcément la France la plus pauvre, c'est toute une classe moyenne qui, ça va des pauvres évidemment, jusqu'à une classe moyenne même haute, qui n'y arrive plus, qui n'en peut plus, qui regarde ce spectacle plus que désolant de ces hommes politiques. J'ai fait le comparatif avec un couple. On a l'impression de voir, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, genre, on a l'impression de voir des parents qui s'engueulent devant des enfants. Moi, quand j'ai eu des ruptures avec mes épouses différentes, on est passé sur notre orgueil, on est passé sur notre ego pour protéger nos enfants. Là, on a l'impression
ils sont irresponsables.
On a l'impression que c'est leur ego. De toute façon, c'est ça, c'est leur ego, c'est leur orgueil, c'est des petites bagarres. C'est un cinéma, effectivement, tellement déconnecté des réalités, parce que tous les matins, les mecs qui se lèvent, ils vont bosser, ils sont écrasés de charges, écrasés de charges. Jamais on n'a payé autant
ça,
de charges.
Ça, c'est un des mots qui revient parce que vous avez commencé à recevoir
juste finir
des
ça,
mails. Ont, et parmi ont, ces mails, il y a cette question des charges.
J'ai mis un truc en place qui est un... Il faut déjà que je précise. Je me présente à rien. C'est pour ça que je suis légitime là-dedans. Je veux pas être président de la République. J'en ai pas les compétences. J'ai pas envie de rentrer dans ce cinéma. Justement, là, je vais continuer à faire mes spectacles parce que je vais rester au contact des gens. Mais j'ai mis une boîte mail à disposition pour que les gens m'envoient des propositions. Et donc l'idée, c'est de
faire peser.
Non, c'est de prendre ces propositions, d'en garder une quarantaine d'ici les élections, de les faire étudier par des gens pour voir ce qui est réaliste et réalisable, et de faire ce que j'appelle un chantage démocratique. C'est-à-dire d'aller voir les deux qui vont rester à l'élection et de leur dire, voilà, est-ce que vous engagez solennellement à appliquer ce que veulent les gens, ce que veut le peuple? Et dans ces cas-là, vous aurez nos voix. Ce qui veut dire que si on est 50 000 derrière moi, ça n'a aucun poids. Si on est 800 000 ou plus, on aura vraiment du poids, c'est ce que je pense. Et pourquoi je voudrais faire ça? Parce que, sur ce que je ressens, si démocratiquement on fait pas ça, ça va vraiment dégénérer.
Quand vous dites ça va mal terminer, c'est même ce que vous dites, si on n'écoute pas le peuple, il y a des gens très sérieux, comme Jérôme Fourquet de l'IFOP, qui a analysé ce que vous incarniez. Il parle d'un phénomène social, d'un symbole anti-élite. Il dit, Patrick Sébastien, cette France des campings qui ne se sent plus représentée trouve en lui, c'est l'expression qu'il utilise, trouve en lui une espèce de champion que le système, entre guillemets, essayerait de bâillonner parce qu'il dirait tout fort les vérités qui ne seraient pas bonnes à dire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait?
Bien sûr, je me reconnais, à part que le mot camping, justement, moment, ça fait partie de la caricature. Ça veut dire, c'est la France des campings. Pourquoi la France des campings? Il n'y a pas que des campings. Dans les gens qui sont derrière moi, il y a tout. Les mômes qui viennent me voir l'été, c'est des, j'ai plein de mômes dans mon public qui vont devenir, qui sont étudiants.
Vous parlez notamment des jeunes.
Qui vont devenir chirurgiens, qui vont devenir avocats, qui vont devenir chefs d'entreprise. Et puis autour de moi, j'ai plein de gens de tout milieu différent. Alors il y en a plein qui me disent, oui, mais c'est aussi, ça ressemble beaucoup au programme du RN. Bien sûr qu'il y a plein de choses que le RN.
Il y a quand même pas mal de similitudes, on peut le dire.
Il y a pas mal de similitudes, mais tu sais qui je représente aussi. Moi, je connais des familles de maghrébins. Je connais des familles d'origine africaine qui en ont, je vais être vulgaire, plein le cul, d'être stigmatisé à cause d'une minorité.
Je m'attendais à ce que vous soyez vulgaire, mais pas aussi vite quand même, Patrick Sébastien, ça ne fait que 4 minutes.
D'une minorité qui sont stigmatisés. Ces gens-là, moi je les connais, ils se lèvent le matin, ils bossent, ils respectent la République, ils élèvent leurs enfants parfois bien mieux que des Français de souche peuvent les élever. Donc je représente aussi cela. Tout, au lieu de monter les gens, notre signe de ralliement, c'est ça. C'est la solidarité. Je regarde des partis politiques.
Et en même temps, vous-même, vous distinguez les uns les autres, puisque vous avez cette expression français de souche. Qu'est-ce que ça veut dire, français de souche?
Français de souche, c'est français de souche, c'est moi. Je suis né en Corrèze. C'est ce qu'on appelle.
C'est quoi? C'est le mâle blanc.
C'est le mâle blanc. J'ai été viré pour ça parce que j'étais un mâle blanc.
Viré quoi? De France Télévisions?
Ben oui. Et puis cette France-là, dès qu'elle dit qu'elle est patriote, moi je fais chanter la Marseillaise dans mes spectacles. C'est tout de suite. Ah, vous êtes des fachos. Tu dis, je veux de la sécurité pour mes enfants. Ah, vous êtes des fachos. Tu défends les flics? Je défends pas tous, mais moi, quand j'entends Mélenchon dire c'est tous des assassins, je peux pas entendre ça. C'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible d'entendre que tous les flics sont des assassins. Il y a des brebis galeuses dans la police, mais on a besoin. Je fais le comparatif souvent avec mon sport, le rugby. Tu sais, le rugby, on a un arbitre. Pour moi, la police et la justice sont les arbitres de la société.
Et il faut leur faire confiance.
Il faut les respecter, surtout. Au rugby, tu bouscules un arbitre, t'es radié à vie. Aujourd'hui, on tape sur des flics.
Vous avez vu les images, ce week-end, ce tuning sauvage, une gigantesque rassemblement sur un parking de Leclerc, et des policiers qui ont été littéralement pris pour cible.
Non, c'est pas possible.
Au point de devoir eux-mêmes reculer.
C'est pas possible. Ça veut pas dire qu'ils sont tous formidables. Mais c'est pas possible. Qu'on puisse caillasser des pompiers, qu'on puisse caillasser des toubibs, mais, alors, ok, je suis un boomer, je suis d'une vieille génération. Nous, on avait du respect pour ces gens-là. L'élève avait peur du maître, le voleur avait peur.
Vous êtes pour le retour d'une forme d'autorité et en même temps.
Et de liberté.
Dans la comparaison et de liberté, ça on le sait bien, Patrick Sébastien. Parfois, elle va très loin chez vous quand même, Patrick Sébastien.
La liberté, elle va où moi, ma liberté, elle s'arrête où commence celle des autres. Voilà, tout simplement. Elle va pas très très loin. Elle commence. Quand je dis, j'aimerais plus de caméras de surveillance. Les gens, ils vont dire, ah, mais oui, mais atteinte à la liberté. Non. C'est pour protéger la liberté des gamines qui ont envie de sortir le soir et qui ont pas envie de se faire agresser parce qu'une fille, aujourd'hui, qui va sortir dans la rue le soir, c'est dangereux. Mais ça, c'est pas possible.
Plus qu'avant. En vrai.
Ah, plus qu'avant, mais bien sûr.
Est-ce qu'on n'a pas juste le nez sur le guidon?
Non, pas plus qu'avant. C'est pas un sentiment d'insécurité qu'il y a dans ce pays. Faut arrêter de rêver. À un moment, c'est ce bagarre entre le dogme et la réalité. Tu reçois tous les jours ici des gens qui sont dans le dogme. Il y a le dogme écolo, il y a le dogme de droite, il y a le dogme d'extrême droite, d'extrême droite. Et il y a la réalité. Et la réalité des gens, c'est j'ai plus assez de thunes, j'ai trop de charges, ma sécurité est pas assurée. On passe pour des clowns aux yeux du monde entier aujourd'hui.
Et c'est cette question-là d'ailleurs qui remonte dans les fameux mails que vous recevez. Une question aussi sur, puisque vous l'avez dit de vous-même, il y a des similitudes avec le programme du RN, et en même temps, vous dites, je ne voterai pas RN.
Pour l'instant, je voterai pour personne. Et dans ce que je propose, que la personne qu'on va soutenir éventuellement, soit de gauche, de droite, je m'en fous. Et je pense que la plupart des gens, l'abstention le prouve, s'en foutent aussi du moment qu'il y a une personne ou quelqu'un qui va faire quelque chose pour eux. La Constitution, on est élu par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, on a l'impression, pour revenir au cinéma du départ, qu'ils sont élus par le peuple et pour leur gueule. Mais c'est pour le peuple. Là, aujourd'hui, je vois mes potes agriculteurs, je les soutiens à 100% dans leur lutte.
Contre le Mercosur?
Évidemment. Dans ce qui revient beaucoup dans mes trucs, il y a l'Europe. Est-ce qu'on doit en sortir ou est-ce qu'on doit y rester en étant...
Vous en pensez quoi, vous, Patrick Sébastien?
Moi, j'en pense que soit on doit en sortir complètement, soit on doit plus être inféodé à toutes les normes et à toutes les commissions. Parce que ça nous bouffe. Alors, on va me parler, encore une fois, de préférence nationale. C'est une référence nationale. Moi, je suis fier de mon pays et j'ai pas envie...
C'est difficile aujourd'hui d'exprimer ça?
Moi, j'exprime parce que je m'en fous, j'ai pas peur.
Il y a eu une époque, vous dites, voilà, moi j'ai été viré parce que j'étais le mâle blanc de plus de 50 ans, qui avait une sorte de politiquement correct dans les médias.
Pourquoi il y avait? Il y a toujours.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une forme de diversité des médias, des sensibilités.
Oui, il y a une diversité des médias.
On peut quand même dire ce qu'on veut.
Il y a une diversité en oubliant.
Est-ce que c'est pas une sorte de, est-ce que c'est pas facile de dire, voilà, on est seul contre le reste du monde?
Non, on n'est pas seul contre le reste du monde parce que les gens que je représente sont la majorité dans ce pays. Simplement, on leur donne plus la parole depuis longtemps. Simplement, ils sont mal représentés. Ils font des guéguerres entre eux, de pouvoir. Dans les trucs que je reçois, il y a plein de gens qui vont pas être contents parce qu'on va s'attaquer à des niches. Attention,
quelles
à des
sont
niches.
Ce que vous voulez retenir? Vous avez dit, parmi les mails, tous ces mails, et d'ailleurs vous dites les lire, et je le crois volontiers puisque vous êtes assez précis dans ce que vous en dites, déjà au moins 10 000 mails reçus. Vous dites c'est surtout sur des questions de sécurité, d'immigration, de charges, l'Europe.
Et du gaspillage d'État. Parce que jamais, donc on a payé autant de charges, et jamais les services publics qui sont santé, que c'est censé nourrir, ont aussi mal marché. Donc c'est que le pognon, c'est où passe le pognon. Ce que me disent les gens, où passe le pognon, j'ai reçu plein de trucs. L'argent qu'on donne à l'étranger pour aider d'autres pays qui devraient plutôt revenir à nous. La différence entre le brut et le net sur un salaire, c'est tout bête, c'est la réalité. Ça, ils veulent que ça change. Vraiment. Il y a des institutions, j'ai reçu beaucoup de choses où les gens me disent, est-ce que des régions et des départements sont essentiels?
Est-ce qu'il faut pas supprimer un des deux échelons?
Est-ce qu'on ne doit pas redonner? Moi, je serais pour redonner plus de pouvoir aux maires et aux préfets.
Oh, là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec un Jean-Louis Borloo, par exemple?
Oui, aux maires et aux préfets, parce que j'ai même des amis élus moi, je voudrais qu'on revienne aux députés-maires, parce qu'au moins, ils sont sur le terrain. Et ces députés-maires, ils s'en foutent pas.
Donc le non-cumul, c'était une bêtise?
Non. Oui, pour moi, oui. Cumul des mandats, mais pas forcément le cumul des salaires.
Ce qui était déjà le cas. En réalité, ils ne cumulaient pas les salaires.
Et ils sont d'accord. Et puis, il y a plein de gens qui me disent, il y a trop de députés. Il y a des départements, je crois, où il y en a 20 députés.
Est-ce que vous êtes écolo? Vous parliez tout à l'heure de la question des dogmes. Est-ce que vous êtes écolo?
Mais évidemment. Sébastien. Moi, ce qui me gêne dans l'écologie, c'est que ce soit de gauche. Ça veut dire, l'écologie est de gauche aujourd'hui. Ça veut dire, tous les gens de droite ont envie que la planète se plante, ont envie que leur gosse meure de ça. Non. L'écologie, il faut un ministère de l'écologie, évidemment. Mais il faut pas que ce soit une dictature.
Quel est, à vos yeux, aujourd'hui, Patrick Sébastien, le plus grand péril pour la France, la plus grande menace?
La plus grande menace, c'est que ça reste en l'état. Et depuis, regarde, toi qui observes, depuis des mois, là, ils se battent là-haut, et en bas, ça a changé quoi? Rien. Le plus grand péril, c'est ça. Ce qu'il faut faire pour cette prochaine élection, faut renverser la table. Faut pas se contenter de changer la nappe, parce que c'est ce qu'on a fait, là, aux dernières élections. On a changé la nappe, mais la table est restée la même. Faut la bousculer, la table. Parce que si nous, on la bouscule pas aujourd'hui, c'est le plus grand péril qui nous guette, c'est que ça va mal se terminer. Les gens vont vraiment se mettre en colère.
Il y a des partis. Quel regard est-ce que ceux qui vous écrivent, mais aussi vous, vous portez sur les différents partis? Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'un affrontement RN-LFI est inéluctable?
Pas forcément. Il y a peut-être une autre voie.
Laquelle?
Une voie intermédiaire où justement on prend en compte les volontés du peuple. C'est vrai que moi, j'ai rien ni contre les uns, ni contre... Si, j'ai quelque chose contre les extrêmes. Les extrêmes extrêmes. C'est-à-dire qu'au bout du RN et au bout des Insoumis, il y a des choses qui me dérangent. Les extrêmes...
Pour vous, RN et LFI ne sont pas les extrêmes. Il y a des extrêmes plus loin que...
Voilà. RN et LFI... Il y a ces choses, ils sont dans leur conviction à fond. Mais à leur extrême à eux, il y a des gens dangereux. À leur extrême à eux. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut que on arrête de nous monter les uns contre les autres. Quand je te parle de solidarité, ce peuple français, il a besoin d'être rassemblé. Alors que ces gens-là, des deux côtés, poussent à la haine. C'est la peur dont je parle dans mon bouquin. On se sert de la peur pour lutter contre l'extrême droite, pour la prétendue extrême droite. Et qu'est-ce qu'on fait? On se sert de la peur. On dit, oh là là, attention, il les faut pas. Pour les insoumis, c'est pareil. Oh là là, il les faut pas. Il y a peut-être effectivement une voie au milieu, avec des politiques d'ailleurs, de bonne volonté qui pensent à l'intérêt.
Il y en a qui trouvent grâce à vos yeux.
Oui. J'ai pas de nom précis.
Ah, bah voilà, d'accord, j'adore.
Bah quoi, pas avoir.
Ah, bah il y en a qui trouvent grâce à mes yeux, mais j'ai pas de nom précis.
Non, mais oui, mais je vais pas vous donner de nom précis pour l'instant.
Bah pourquoi justement? Pour dire du bien,
parce
c'est
que
pas
j'ai
mal.
Pas de nom. Non, je te parle de généralité. Quand je te dis il y en a, j'ai pas de nom précis, je vais te dire pourquoi. Dans les politiques d'aujourd'hui, il y a, je suis certain, des gens de conviction qui pensent plus à l'intérêt général qu'à leur intérêt particulier. De dire les noms, je sais pas t'en dire là-dessus.
Je vous trouve plutôt moins drôle là-dessus que ne l'était un Coluche. Parce que peut-être peut-être vous pensez justement que notre école, parce que certains ont comparé, ont dit, bah, au fond, c'est peut-être notre nouveau Coluche.
Tu crois que j'ai envie d'être drôle?
Précisément, vous estimez qu'aujourd'hui, on peut plus rire.
C'est pas qu'on peut plus rire. Moi, je continue à faire rire. C'est mon métier d'amuser les gens. Mais sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai pas envie d'être drôle.
On peut plus.
Parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, mes copines infirmières, ils voient des gens crever. Tu sais combien il y a eu de sans-abri qui sont morts dans la rue l'année dernière?
Oui, vous avez donné le chiffre.
Il y en a 900. Il y a 900 personnes sans-abri qui sont mortes dans la rue l'année dernière dans notre pays. T'as envie de rire, toi? Pas moi. Ça me fait pas rire. Parce que ça peut être des proches de moi. Parce que je vois les gens autour de moi qui rentrent dans les hôpitaux, qui ont pas le temps de se faire traiter, quand tu veux avoir un toubib, quand tu veux avoir quelque chose, mes copines infirmières, elles disent, c'est malgré nous.
Mais vous feriez comment?
Ben, il faut changer le système. Il faut donner un peu plus d'argent aux hôpitaux. Il y a des endroits où il faut enlever de l'argent parce qu'il y a des planques. Attends, les planques
c'est
de copains.
Les planques
ben, c'est les planques de copains. Il y a des agences d'État, tu le sais très bien.
Donc les agences d'État
où t'as un chef de cabinet, un sous-chef de cabinet, un secrétaire du sous-chef.
Donc les agences. Non, mais
c'est pas aussi.
Sur le logement, vous parlez beaucoup de la question du logement, Patrick Sébastien. Une des propositions du ministre là du logement ou de la ville, c'est l'idée qu'il n'y a plus de HLM. À vie. Alors c'est déjà pas le cas, il y a pas de HLM à vie, mais disons que en réalité il y a peu de turnover.
Je peux pas rentrer dans ces détails-là parce que moi je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne fais que remonter les idées des gens. Ces idées, on va les étudier pour voir ce qui est jouable ou pas.
Et vous allez les analyser avec des économistes.
Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, et je commence pour arriver à des choses réalistes et réalisables. Si on nous demande le SMIC à 30 000, évidemment que c'est irréalisable. Pour le logement, je ne suis pas assez pour l'instant calé et je ne connais pas assez les choses.
Ça veut dire, Patrick Sébastien, qu'il faudra revenir dans quelques mois.
Bien sûr, mais j'en ai bien.
Quand ce sera justement chiffré, plusieurs questions assez précises. L'une, notamment, sur ce que vous appelez le retour du puritanisme. Comment vous l'analysez aujourd'hui? Vous avez en même temps toujours pu, jusqu'à aller très loin quand même, aller dans le grivois.
Ça dépend où on place le très loin. Dans le grivois, faut arrêter l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie.
Alors allons-y.
Tu as des enfants, non?
Oui.
Ils ont des téléphones.
Oui.
Va faire un tour sur les téléphones. Tu vas voir ce qu'il y a.
Je sais bien
sur
que
les téléphones. Il y a quoi? Ouais. Les gamins, ils sont quoi sur les téléphones?
Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut les en protéger?
C'est pas à moi à faire ça. On vit avec notre temps. Le temps nous a apporté ces téléphones où les mômes ont accès à tout. On peut pas faire des lois sur tout. Il y a une éducation, il y a une manière de faire comprendre les choses, mais il y a aussi la marche du temps. L'intelligence artificielle, elle est là. Elle est dramatique sur certaines choses. Elle peut être excessivement utile, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à la fois un poison, parce que c'est une poubelle infernale, et en même temps, ça a donné la chance à plein de gens
s'exprimer. Vous dites que ça a permis aussi de rompre une forme de solitude.
La solitude est une chose dont on se rend pas compte à quel point des gens, même en couple, même en groupe, sont seuls aujourd'hui.
Patrick Sébastien, Alain Souchon dit qu'il ne veut pas croire que les Français, je cite, soient assez cons pour voter pour le RN.
J'adore Souchon, mais il a dit une bêtise, bien sûr. C'est ce mépris. Ce mépris-là qui a fabriqué le RN. C'est ça qui est formidable. C'est que plus on les méprise à ce point-là, plus on les réconforte.
Vous seriez prêt à payer plus d'impôts, vous?
Moi, j'ai toujours défendu les impôts. J'en paye beaucoup.
Est-ce qu'il faut faire payer des impôts, plus d'impôts aux très riches?
Non. Attends, aux très riches?
Ouais.
À une condition. Faisons payer des impôts. De toute façon, déjà, les très riches payent beaucoup. Moi, je suis pas très riche. Je suis confortable. Non, je suis confortable. Je bosse. J'ai 72 ans. Je vais encore bosser pour gagner ma vie. C'est pas très riche, ça. Je suis pas sur un fauteuil en train d'attendre que ça tombe. Je me bats pour aller les chercher. Moi, je veux bien qu'on prenne de l'argent aux très riches, mais à condition que ça redescende sur ceux qui en ont besoin. Si c'est prendre de l'argent aux très riches pour entretenir des associations, des copains et tout ça, non, bien sûr. Alors leur taxe Glucksmann, je sais pas. Déjà, les riches payent beaucoup. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours défendu les impôts en disant c'est normal de payer beaucoup d'impôts quand on a gagné beaucoup d'argent.
Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être venu. On a bien compris que vous reviendrez.
Que ceux qui n'ont pas d'argent, on paye un peu moins, surtout.
Même pas peur, c'est le titre de votre livre et c'est aux éditions IXO. Il est 8h40 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50.
face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Patrick Sébastien, le vrai, est resté avec nous. Rebonjour Patrick.
Ben rebonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote.
C'est parti. Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings.
Pourquoi tu me parles de camping, ça m'énerve, c'est une caricature.
C'est ça.
Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings, hein, c'est aussi ceux des mobilhomes, hein, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Hein, voilà. Non, moi, ce que je dis, moi, alors, c'est urgent, faut renverser la nappe et changer la table.
Non, c'est le
faut renverser la nappe, faut renverser la table sans changer la nappe. Et ça, c'est pas facile. J'ai vu faire dans le cabaret, mais c'est pas facile, mais on peut y arriver, moi j'y crois.
Ce matin, nous accueillons aussi pour la première fois le sélectionneur du 15 de France qui tenait absolument à être là pour vous, Patrick. Bonjour Fabien Galthié. Vous avez écouté Patrick Sébastien, votre regard.
Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. Il a du vécu, une grosse expérience. Un joueur très polyvalent, il peut jouer à tous les postes. Imitateur, chanteur, producteur. Là, il fait maître chanteur avec le politique. Tu tiens ta promesse, sinon on t'explose. C'est cohérent, ça reste les valeurs du rugby.
Ouais.
Le seul danger qui le guette, pour moi, c'est la blessure. Tu vois, portée par de bons sondages qu'il a. Il peut risquer un claquage de l'ego, une déchirure de l'amour propre. En tout cas, moi, voilà, j'y crois, Patrick. Il lui faudra une équipe très soudée. Et pour ça, je peux lui donner un coup de main, lui prêter mes lunettes de soudeur.
Ah oui, ça peut être utile. Merci Fabien Galthié. On passe tout de suite au titre de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer. Hier, le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela, a été libéré. Emmanuel Macron a tenu à bien préciser qu'il n'y avait pas eu d'intervention ni de l'Allemagne, ni des Allemands, ni du chancelier, ni du Bundestag, ni de Michael Schumacher. Et on poursuit avec cette tentative de vol avortée à la boutique Chanel de l'avenue Montaigne. Et nous sommes en ligne avec une auditrice qui vient de nous appeler au 3216 pour réagir. Bonjour madame.
Oui, bonjour, c'est Anne Hidalgo. Écoutez, non, il ne s'agissait pas d'un braquage. Je suis juste partie, c'est vrai, précipitamment de la boutique Chanel sans rien prendre. C'est juste parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié la carte bancaire de la ville de Paris.
C'était ballot. Merci à tous. Donald Trump a annoncé qu'il allait réduire les droits de douane des produits suisses après que les grands patrons suisses lui aient offert un lingot d'or et une montre en or. Bruno Le Maire, vous vouliez intervenir.
Madame de Malherbe,
oui.
Monsieur Sébastien, vous savez qu'aujourd'hui, je me suis recyclé. Je suis prof d'économie en Suisse. Et bien voilà le résultat. Hein. Quand on suit mes conseils, ça marche. Moins 25% sur les droits de douane pour les Suisses. Black Friday sur les emmerdes, c'est ça. Hein. Donc je dis, si on me laissait, Madame de Malherbe, Monsieur Sébastien, Monsieur de Manche, Monsieur Texer, si on me laissait revenir en France, mais je vous le dis, en une semaine, je vous trouve du pétrole sous la Tour Eiffel.
C'est sûr. Retour, donc, c'est vous qui avez conseillé aux Suisses de faire ça. Offrir des objets en or pour obtenir une réduction des droits de douane, c'est quand même de la corruption.
Mais Madame de Malherbe, il faut savoir ce qu'on veut. Ah, évidemment, oui. Nous, en France, nos meilleurs clients, qu'est-ce qu'on leur offre? Des stylos et des petits porte-clés.
Oui.
Non, en Suisse, on sait considérer le client. On offre des lingots d'or. Hein, voilà. Si on veut rivaliser, il faut que Macron m'écoute. J'avais dit à Emmanuel en plus. Hein, appelle Donald Trump, propose-lui des putes. Mais il adore ça. On lui donne une demi-douzaine, je suis sûr qu'il n'y a plus de droits de douane sur notre pinard, Madame de Malherbe.
Mais n'importe quoi, on ne va pas quand même offrir des putes. Enfin, c'est pas possible.
Eh bien, alors, on lui offre une poupée chine. Voilà. Hein, hein, faut faire jouer notre réseau. Maintenant, avec le BHV, on a tous les contacts. Faut jouer avec nos impôts, sinon on va se faire bouffer.
Monsieur le maire, Patrick Sébastien qui est ici et qui est extrêmement choqué.
Bah, tu m'étonnes.
Samedi après-midi, les locaux d'RMC et de BFM TV ont été la cible d'une alerte à la bombe. Le bâtiment. On revient sur ces événements avec Vincent Moscato, vous aurez reconnu.
Oh, l'alerte à la bombe. Oh putain, l'alerte à la bombe. Oh, je me suis fendu la gueule tout le week-end. Les mecs de BFM week-end, tu vois qu'il faut les éditions du week-end, il le sait, Texer, Marshall, il le sait, c'est que des planqués, tu vois, le week-end. Il semble qu'il n'y a pas d'actu le week-end, ouais. Donc il faut le week-end, tu vois. Tu les aurais, putain, là, ils passent la journée à la machine à café, tu vois, les mecs, les gosses. Et là, putain, alerte à la bombe, là. Oh, putain, alerte à la bombe. Et tu les aurais vu étaler dans les couloirs, comme s'il y avait une équipe de All Black au cul, quoi. Dans les escaliers de secours, t'as des gosses, ils se sont fait flasher à 200 km/h avec des centres d'organes dans le slip, tu vois. En plus, les flics.
Les flics,
ils étaient super chauds, les flics, tu vois. L'endemain des attentats du 13 novembre, anniversaire, tu vois, les mecs, ils étaient super chauds, ils ont déboulé avec 15 clébards de des mineurs qui te reniflent les couilles comme les chiens truffiers, tu vois.
C'est quand même normal qu'on ait pris toutes les mesures de sécurité.
Ah ben, parlons-en de la sécurité, putain. La fouille pour entrer ce matin, il a vécu Patrick, la fouille. T'as vu la fouille? Tout le monde à poil sur le trottoir. Les mecs, ils ont sorti le badge en disant non, nous c'est bon, on est dans la direction, tu vois. Tu vois, les caranonis, les renards, les nejaris, tu vois. Eh ben non, les flics, que dalle. Ils ont dit, ils s'en branlent du badge. Ils ont dit, tout le monde, une main devant, une main derrière. Penchez-vous en avant, éternuez. Le premier qui avait le pincet pilé ou un demi-cure-dent, c'était considéré comme une arme blanche et tu partais direct à la santé à bouffer des danettes à la pistache et Sarko. Tu sais que Caranoni, il est à la santé, là. Il est pas ce matin au bureau, il est à la santé. Et ils l'ont trouvé une bombe dans son sac. Une bombe de l'acte, mec. Ouais, pour le connaître, Caranoni. Tout ça, parce que c'était un canon de Patrick, encore un grand bluff. Ah, il est trop fort, mec, putain, exceptionnel.
C'est un canon de Patrick Sébastien. Ça valait la peine, Patrick. Alors...
Ça valait la peine. Mon Nicolas, ça me fait tellement plaisir. On était en train de se rappeler, c'était il y a 22 ans.
Ouais, exactement.
J'étais son producteur au début. Il est venu me voir.
Et on continue
soir,
tout le monde sur RMC. Merci en tout cas. Face à Cantelou qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, c'est quoi le programme, Alain ?
Eh bien, avec les grandes gueules, on reviendra sur ce qu'a dit Alain Souchon. Il ne croit pas que les Français soient assez cons pour voter Rassemblement National. Et de toute façon, s'il vote RN, lui, il se casse en Suisse. Ça mérite qu'on en parle dans les GG. Non, allez, à tout de suite au 32-16. We'll be right back.